Vous déjà imaginé un monde où les robots se rebelleraient, non pas dans un film catastrophe hollywoodien, mais dans votre usine, votre hôpital ou même chez vous? On pourrait croire à de la science-fiction, mais des événements récents suggèrent que ce scénario pourrait bien devenir réalité plus tôt qu'on ne le pense.
C'est vrai. On voit bien que notre perception des robots est en train de changer. On est passé de simples outils à des entités potentiellement dangereuses.
Et c'est justement ce qui rend notre exploration d'aujourd'hui si fascinante. Vous nous avez confié une série d'articles et des rapports captivants qui mettent en lumière la sécurité des robots et des logiciels, surtout avec l'essor de l'intelligence artificielle et l'automatisation croissante. Préparez-vous car nous allons plonger ensemble dans l'univers souvent méconnu de la cybersécurité, dans le domaine de la robotique et du développement logiciel.
Un sujet d'une importance cruciale, car les risques liés à la sécurité des robots sont bien réels, surtout avec leur présence de plus en plus marquée dans notre quotidien.
Exactement, Tabeco. On va décortiquer les dernières réglementations européennes sur la sécurité des machines, analyser des exemples concrets de piratage de robots et découvrir les stratégies mises en place par les fabricants pour garder une longueur d'avance. On s'intéressera également à des principes comme le Security by Design et le cadre NIST qui sont en train de changer la donne.
Il est essentiel de comprendre comment ces principes et ces réglementations contribuent à façonner un avenir plus sûr pour la robotique.
Pour commencer, parlons de cette vidéo qui a fait le buzz, venue tout droit de Chine, et qui montre des robots semblant refuser de travailler et quitter leur poste. S'agit-il d'une véritable rébellion ou d'un coup marketing bien ficelé?
Il s'agit probablement d'un coup marketing astucieux. Pour l'instant, les robots ne possèdent ni conscience ni capacité de rébellion. Cependant, cette vidéo met en lumière une inquiétude grandissante. La possibilité de voir des robots utilisés à des fins malveillantes s'ils venaient à être piratés. Imaginez un robot industriel manipulé pour causer des dommages physiques ou perturber une chaîne de production.
Et c'est là que les choses deviennent vraiment préoccupantes. Les conséquences pourraient être catastrophiques, surtout si on considère des secteurs comme la santé ou les infrastructures critiques.
Absolument. C'est pourquoi des mesures de sécurité robustes sont indispensables pour prévenir le piratage et garantir un contrôle total sur les robots. C'est là que le concept de Vulnerable by Design entre en jeu.
Justement, ce concept de Vulnerable by Design m'intrigue. Pourriez-vous nous l'expliquer et nous dire pourquoi il est si inquiétant?
Vulnerable by Design décrit une réalité alarmante. De nombreux systèmes sont conçus dès le départ avec des failles de sécurité. Les développeurs de logiciels sont souvent soumis à une pression énorme pour privilégier la rapidité à la sécurité, ce qui aboutit à des produits commercialisés avec des vulnérabilités.
C'est un peu comme construire une maison sans serrure aux portes en espérant que personne ne remarquera.
Excellente analogie. Et tout comme une maison non sécurisée est vulnérable au cambriolage, un logiciel non sécurisé est une cible facile pour les pirates.
Alors, comment passer d'un système vulnerable by design à un système secure by design? Quelle solution s'offre à nous?
Le changement doit d'abord s'opérer dans les mentalités. La sécurité doit être intégrée dès la conception du logiciel et non pas ajoutée après coup.
Il faudrait donc repenser toute la manière dont les logiciels sont développés. Au lieu de colmater les brèches après une attaque, on construirait des systèmes résistants dès le départ.
Exactement. C'est ce que prônent les principes du Security by Design et du Secure by Default, passer de la réaction à la prévention. Un exemple concret, l'incident CrowdStrike de 2024. Une simple mise à jour logicielle de routine a provoqué une perturbation mondiale, illustrant l'importance des tests rigoureux et les conséquences potentielles des failles de sécurité dans les systèmes interconnectés.
Une mise à jour logicielle qui paralyse des systèmes à l'échelle mondiale, c'est assez effrayant. Cela montre à quel point tout est interconnecté de nos jours.
Mais concrètement, comment le Security by Design est-il mis en œuvre? Prenons l'exemple du NIST, le National Institute of Standards and Technology aux États-Unis. Le NIST a développé un cadre de cybersécurité qui fournit aux organisations un ensemble de bonnes pratiques et de directives pour gérer les risques liés à la cybersécurité. Ce cadre est applicable à tous les types de systèmes, y compris les robots.
Donc le NIST propose une sorte de guide pour aider les entreprises à sécuriser leur système Security. Est-ce que ce cadre est obligatoire?
Le cadre NIST n'est pas obligatoire en soi, mais il est largement reconnu comme une référence en matière de cybersécurité. De nombreuses organisations, y compris des agences gouvernementales et des entreprises du secteur privé, l'utilisent pour améliorer leur posture de sécurité.
Donc, même si ce n'est pas obligatoire, c'est un outil précieux pour les entreprises qui souhaitent se protéger contre les cyberattaques.
Tout à fait. Il faut bien comprendre que les vulnérabilités ne se limitent pas à un seul type de technologie.
Du Bluetooth au système d'exploitation de robots comme ROS, les menaces sont omniprésentes.
Attendez une seconde, vous venez de mentionner ROS. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et en quoi cela nous concerne ?
Bien sûr. ROS, pour Robot Operating System, est un ensemble de logiciels libres qui fournit une base pour le développement de logiciels robotiques. Il est largement utilisé dans la recherche et l'industrie, notamment pour des applications comme la navigation, la manipulation d'objets et la vision par ordinateur. Cependant, ROS présente aussi des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des pirates informatiques.
Alors, si ROS est utilisé dans des robots qui nous entourent, cela signifie que nos appareils pourraient être vulnérables. Et...
C'est une possibilité, oui. Imaginez un robot domestique piraté qui transmet des informations sensibles à des tiers, ou pire encore, un robot chirurgical dont le contrôle est pris à distance par un attaquant.
C'est terrifiant. On a l'impression que ces scénarios catastrophes ne sont plus de la science-fiction.
Effectivement, les risques sont bien réels, et il est important de les prendre au sérieux. Et le coût de l'insécurité ne se limite pas aux violations de données et aux pertes financières. Il faut aussi tenir compte des dommages physiques et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
Vous avez raison. Par exemple, une étude de Forescu a révélé 162 vulnérabilités dans les dispositifs médicaux connectés. Si un pirate informatique prenait le contrôle d'un appareil médical, les conséquences pourraient être dramatiques.
Absolument. Et il est crucial de réaliser que la sécurité des robots et des logiciels n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Et avec l'essor de l'intelligence artificielle, les enjeux deviennent encore plus importants, n'est-ce pas ?
Tout à fait. On parle beaucoup de l'IA comme d'une révolution technologique. Mais quels sont ses impacts concrets sur la sécurité des robots ?
L'IA est une arme à double tranchant. D'un côté, elle peut renforcer la sécurité des robots grâce à des systèmes de détection des menaces plus sophistiqués.
Par exemple, un système d'IA pourrait analyser le comportement d'un robot en temps réel et détecter une activité suspecte, comme une tentative de piratage bête.
Exactement. L'IA peut jouer un rôle crucial dans la prévention des cyberattaques. Mais de l'autre côté, elle présente aussi des défis uniques en matière de sécurité.
C'est-à-dire I. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets ?
Prenons l'exemple d'un système d'IA mal conçu. Il pourrait être manipulé pour prendre des décisions dangereuses ou, pire encore, un pirate informatique pourrait utiliser l'IA pour créer des attaques encore plus sophistiquées, capables de contourner les systèmes de sécurité traditionnels.
Donc l'IA peut aussi être utilisée par les pirates pour rendre leurs attaques plus efficaces. C'est un peu comme si on donnait aux cambrioleurs des outils plus performants pour crocheter les serrures.
C'est une bonne analogie. C'est pourquoi il est essentiel de concevoir des systèmes d'IA avec les principes du Security by Design. Dès le départ, il faut anticiper les risques et mettre en place des garde-fous pour les atténuer.
D'accord, on comprend mieux les menaces et les enjeux. Mais que fait-on concrètement pour améliorer la sécurité des robots et des logiciels ?
Heureusement, il existe des initiatives prometteuses au niveau européen. L'Union européenne a récemment mis en place un nouveau règlement sur les machines, le règlement UE 2003-230.
Ah oui, j'ai entendu parler de ce règlement. Pourrait-il obliger les fabricants à prendre la sécurité plus au sérieux ?
Oui, c'est son objectif principal. Ce règlement met l'accent sur les exigences de sécurité pour les machines dotées d'IA et vise à créer un cadre juridique plus strict pour la sécurité des machines, y compris les robots. Il impose des obligations aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs.
Et quelles sont les applications pour les entreprises et les consommateurs suisses ? La Suisse n'étant pas membre de l'UE, est-elle concernée par ce règlement ?
Même si la Suisse n'est pas membre de l'UE, ce règlement aura un impact sur les entreprises suisses qui exportent des machines vers l'UE. De plus, la Suisse a tendance à s'aligner sur les normes européennes. Il est donc probable qu'elle adopte des réglementations similaires.
Donc, même si la Suisse n'est pas légalement tenue de suivre ce règlement, il est dans son intérêt de le faire pour des raisons économiques et de sécurité.
Exactement. La Suisse a tout intérêt à se positionner comme un leader en matière de sécurité des robots et des logiciels. D'ailleurs, le débat sur la régulation de l'IA est très animé en Suisse.
Ah oui, j'ai entendu parler de ce débat. Pourriez-vous nous en dire plus ? Quelles sont les différentes positions ?
D'un côté, Économie Suisse, la fêtière des entreprises suisses, plaide pour une approche flexible et pro-innovation en matière de régulation de l'IA. Ils craignent qu'une réglementation trop stricte ne handicape les entreprises suisses face à la concurrence internationale.
Donc ils préféraient une régulation minimale pour ne pas freiner l'innovation. C'est compréhensible, mais ne risque-t-on pas de négliger les risques potentiels de l'IA pour la société ?
C'est une question légitime. D'ailleurs, l'UE, avec son AI Act, opte pour une approche plus stricte qui met l'accent sur la protection des données, la sécurité et la transparence des systèmes d'IA.
Donc deux visions s'opposent, l'approche flexible de la Suisse et l'approche plus stricte de l'UE. Comment la Suisse peut-elle trouver un équilibre entre ces deux positions ?
C'est un défi de taille pour la Suisse. Il faut trouver le juste milieu entre la promotion de l'innovation et la protection des citoyens. Le débat est loin d'être terminé. Et il est important de peser soigneusement les risques et les opportunités avant de prendre une décision.
C'est un sujet vraiment complexe, mais avant de nous lancer dans un débat politique, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on réfléchisse aux implications de tout ça pour nous en tant qu'individus. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les consommateurs et les utilisateurs de technologies ?
C'est une excellente question. En tant qu'individu, on est tous concernés par la sécurité des robots et des logiciels, car on interagit de plus en plus avec ces technologies dans notre vie quotidienne, que ce soit notre smartphone, notre voiture connectée, notre assistant vocal, ou même nos appareils électroménagers. On est entouré de systèmes qui peuvent être piratés.
On a évoqué tout à l'heure les principes du Security by Design et du Secure by Default. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail ce que ces principes impliquent ?
Bien sûr, le Security by Design consiste à intégrer la sécurité dès la conception d'un produit ou d'un système au lieu de la considérer comme un ajout. Après coup, on l'intègre dès le départ dans le processus de développement.
Donc, au lieu de colmater les brèches, une fois le produit fini, on construit des fondations solides dès le début.
Exactement. On anticipe les menaces potentielles et on conçoit le système pour y résister. Cela peut impliquer l'utilisation de langages de programmation, plus sur la mise en place de mécanismes d'authentification robustes, la limitation des privilèges d'accès, etc.
Et le Secure by Default, c'est un peu la même chose, mais appliqué aux configurations par défaut.
Oui, c'est l'idée. Le Secure by Default signifie que les paramètres de sécurité par défaut d'un produit ou d'un système sont les plus stricts possibles. L'utilisateur n'a pas besoin de les configurer manuellement pour être protégé.
Donc, par exemple, le logiciel serait livré avec un mot de passe fort par défaut et l'utilisateur devrait le modifier s'il souhaite un mot de passe plus faible.
C'est un exemple parmi d'autres. Le Secure by Default peut aussi impliquer l'activation par défaut de fonctions de sécurité comme le chiffrement des données, la protection contre les logiciels malveillants, etc.
C'est une approche qui met la barre plus haut en matière de sécurité, mais est-ce que tous les fabricants sont prêts à l'adopter ?
Ce n'est pas encore une pratique généralisée. Mais de plus en plus d'entreprises prennent conscience de l'importance du Security by Design et du Secure by Default. Les réglementations, comme le nouveau règlement européen sur les machines, poussent les fabricants à adopter ces principes.
Et il y a aussi une demande croissante de la part des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles aux questions de sécurité et de confidentialité. On ne veut plus confier nos données à des entreprises qui ne prennent pas la sécurité au sérieux.
Tout à fait. La confiance est un élément clé dans l'économie numérique. Les entreprises qui ne sont pas capables de garantir la sécurité des données de leurs clients risquent de perdre leur crédibilité et leur part de marché.
Et il faut aussi que les gouvernements prennent des mesures pour renforcer la sécurité des infrastructures critiques et pour encadrer l'utilisation des technologies émergentes comme l'IA.
Oui, la régulation est un élément important du débat. Il faut trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et la protection des citoyens.
Et cet équilibre est parfois difficile à trouver. On l'a vu avec le débat en Suisse sur la régulation de l'IA entre la position pro-innovation d'économie suisse et l'approche plus stricte de l'IE. Il y a un fossé à combler.
C'est un dilemme complexe. D'un côté, on ne veut pas freiner l'innovation et la compétitivité des entreprises de l'autre. On ne peut pas ignorer les risques potentiels de l'IA pour la société.
Et il n'y a pas de solution miracle. Il faut peser soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque approche.
Exactement. Il faut une analyse approfondie et un débat public ouvert pour trouver la meilleure voie à suivre.
Et ce débat doit être transparent et démocratique afin que tous les citoyens puissent participer et faire entendre leur voix.
Absolument. La cybersécurité et l'éthique de l'IA sont des enjeux de société qui concernent tout le monde. Il est important que les citoyens soient informés et impliqués dans les décisions qui les affectent.
On a beaucoup parlé des défis et des risques liés à la robotique et à l'IA, mais avant de conclure cette deuxième partie, j'aimerais aborder un aspect plus positif, les opportunités offertes par ces technologies.
Oui, il est important de ne pas perdre de vue les opportunités, la robotique et l'IA ont un potentiel énorme pour améliorer nos vies. Elles peuvent nous aider à résoudre des problèmes complexes, à automatiser des tâches fastidieuses, à créer de nouveaux emplois et à stimuler la croissance économique.
Par exemple, dans le domaine de la santé, les robots peuvent assister les chirurgiens lors d'opérations délicates. Et l'IA peut aider à diagnostiquer des maladies plus rapidement et plus précisément.
Exactement. Et dans l'industrie, les robots peuvent effectuer des tâches dangereuses ou répétitives, libérant ainsi les travailleurs humains pour des tâches plus créatives et plus valorisantes.
Et l'IA peut aider à optimiser la production, à réduire les coûts et à améliorer la qualité des produits.
Tout à fait. Les applications de la robotique et de l'IA sont multiples et touchent tous les secteurs de l'économie.
Donc le message à retenir, c'est que la robotique et l'IA sont des outils puissants qui peuvent être utilisés pour le bien pour le mal. Tout dépend de la façon dont nous les concevons, les utilisons et les réglementons.
Absolument. Il est crucial d'adopter une approche responsable et éthique pour garantir que ces technologies servent l'humanité et contribuent à un avenir meilleur.
Et c'est un défi que nous devons relever ensemble en tant que société.
Je suis entièrement d'accord, la collaboration et le dialogue sont essentiels pour façonner un avenir où la robotique et l'IA sont des forces positives au service du progrès humain.
On a beaucoup parlé de la sécurité et des risques, mais vous avez raison. Il est important de ne pas oublier les opportunités incroyables que la robotique et l'IA peuvent nous offrir. C'est un sujet vraiment passionnant. Mais avant de se laisser emporter par l'enthousiasme, j'aimerais revenir sur la question de la régulation de l'IA. On a évoqué le nouveau règlement européen sur les machines et les AI Act. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces initiatives et leurs implications concrètes ?
Avec plaisir. Le nouveau règlement européen sur les machines entré en vigueur en juin 2023 vise à moderniser le cadre réglementaire pour les machines, y compris les robots. Il introduit des exigences de sécurité plus strictes pour les machines dotées d'IA, notamment en matière de gestion des risques de cybersécurité et de protection des données.
Donc ce règlement va vraiment obliger les fabricants à prendre la sécurité de l'IA plus au sérieux.
C'est bien l'objectif. Il impose des obligations aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs pour garantir que les machines dotées d'IA sont sûres et conformes aux normes européennes.
Et l'AI Act, c'est quoi exactement ? J'avoue que je n'ai pas tout suivi sur ce sujet.
L'AI Act est une proposition de règlement européen qui vise à réglementer l'utilisation de l'IA dans divers domaines comme la santé, les transports ou encore la justice. Il est encore en cours de discussion, mais il devrait être adopté prochainement.
Et quelles sont les grandes lignes de ce règlement ? Est-ce qu'il va vraiment changer la donne en matière d'IA ?
L'AI Act propose une approche basée sur les risques en classant les systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque potentiel. Les systèmes d'IA à haut risque, comme ceux utilisés dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de la justice, seront soumis à des exigences plus strictes en matière de transparence, de fiabilité et de supervision humaine.
C'est une approche qui me semble logique. On ne peut pas réglementer de la même manière un système d'IA qui recommande des films sur Netflix et un système d'IA qui conduit une voiture autonome.
Exactement. L'AI Act vise à trouver un équilibre entre la promotion d'innovation et la protection des droits fondamentaux.
Et pour nous en Suisse, quelles sont les implications à l'une ? On n'est pas membre de l'UE, est-ce qu'on est quand même concerné par ces réglementations ?
Même si la Suisse n'est pas membre de l'UE, ces réglementations auront un impact sur les entreprises suisses qui exportent des produits ou des services vers l'UE. De plus, la Suisse a tendance à s'aligner sur les normes européennes. Il est donc probable qu'elle adopte des réglementations similaires.
Donc, même si on n'est pas légalement obligé de suivre ces réglementations, il est dans notre intérêt de le faire pour des raisons économiques et de sécurité.
Absolument. La Suisse a tout intérêt à se positionner comme un leader en matière d'éthique et de sécurité de l'IA. Cela renforcera sa crédibilité et sa compétitivité sur la scène internationale.
Et le débat en Suisse sur la régulation de l'IA, où en est-on ? Y a-t-il un consensus sur la meilleure approche à adopter ?
Le débat est toujours très animé, comme dans beaucoup de pays. Il y a ceux qui prônent une régulation minimale pour ne pas freiner l'innovation et ceux qui plaident pour un cadre réglementaire plus strict pour protéger les citoyens des risques potentiels de l'IA.
C'est un débat complexe qui soulève des questions éthiques et politiques fondamentales. Comment trouver le juste équilibre entre la promotion de l'innovation et la protection des droits fondamentaux ? Ce n'est pas facile de trancher.
C'est vrai, il n'y a pas de réponse simple. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Il faut peser soigneusement les risques et les opportunités avant de prendre une décision.
Et surtout, il faut que ce débat soit ouvert et transparent afin que tous les acteurs de la société puissent participer et faire entendre leur voix.
Je suis entièrement d'accord. L'avenir de l'IA se construit aujourd'hui et nous avons tous un rôle à jouer pour le façonner de manière responsable et éthique.
Avant de conclure cette exploration fascinante, j'aimerais vous poser une dernière question. Quelle est votre vision de l'avenir de la robotique et de l'IA ? Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste ?
Je suis plutôt optimiste. La robotique et l'IA ont un potentiel énorme pour améliorer nos vies à condition de les développer et de les utiliser de manière responsable et éthique. Je pense que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère technologique qui transformera profondément nos sociétés et nos modes de vie. Il est crucial que nous soyons prêts à relever les défis et à saisir les opportunités de cette nouvelle ère.
C'est une vision inspirante et pleine d'espoir.